c'est la première fois que l'écrivain Louis-Ferdinand Céline parle à la radio.
En mars 1955, sur les ondes de la radio suisse, le journaliste Robert Sadoul se retrouve face à Louis-Ferdinand Céline.
Louis-Ferdinand Céline, ou plutôt Docteur Destouches si vous préférez, j'aimerais savoir si vous avez commencé à écrire avant de pratiquer votre métier de médecin.
Réponse de l'intéressé.
Ah, pas du tout. Si l'on peut dire, parce que j'ai écrit une thèse qui s'appelle « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis ».
Semmelweis, un médecin hygiéniste hongrois du 19e siècle et à qui Louis Destouches a consacré une thèse de médecine un peu particulière.
Et qui est en somme un peu littéraire. Elle peut être considérée comme un premier roman, si l'on veut venir. Alors c'est un roman médical, strictement médical, et scientifique pour une partie. Voilà. Alors ça remonte à 1924.
En 1924, Louis-Ferdinand Céline a 30 ans, et il est à la croisée des chemins. Le voici jeune médecin, avec l'étoffe d'un écrivain.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, Louis Destouches est devenu un féroce antimilitariste. Il est pacifiste et sans doute déjà antisémite. Mais c'est aussi un jeune homme sans diplôme qui décide alors d'embrasser une carrière médicale et de consacrer sa thèse de médecine à cet Ignace Philippe Semmelweis et son étrange destin de médecin persécuté. Un choix qui n'est pas anodin pour Céline, bien au contraire. Choisir Semmelweis comme objet d'étude, c'était comme une projection de lui-même. La thèse de Louis-Ferdinand Céline est un miroir. Et vous allez comprendre pourquoi dans ce nouvel épisode.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour. Quatrième épisode, le Toubib de Clichy.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été à un moment et en oubliant certains de ses livres?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale.
Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit débute le 10 août 1919, à Quintin, en Bretagne, à 20 km au sud-ouest de Saint-Brieuc.
In tuo nomine benedicimus.
C'est un jour de mariage.
Et quum gesta verit fidelitatem integram suo sponso tenet.
Louis Destouches, ancien combattant et étudiant en médecine, 25 ans, épouse Edith Follet, née à Rennes le 12 mai 1899.
Santé.
Athanase Follet, père de la mariée, est un médecin orgueilleux qui porte une fine moustache et qui a constitué à sa fille une dot de 12 000 francs par an. En échange de quoi, Louis Destouches s'est engagé à devenir médecin au plus vite, car il est question pour lui de faire son entrée dans la bourgeoisie.
Vous portez-vous mieux, monsieur le notaire?
Oui, je vous remercie, ma santé est excellente.
Alors, comment ce jeune marié, qui n'a même pas son baccalauréat, peut-il décrocher son diplôme en médecine? Voyons la réponse de David Labreur, docteur en lettres modernes.
On a souvent dit que Céline était devenu médecin un peu à la va-vite. Alors effectivement, du point de vue du temps, c'est allé assez vite. En général, c'est 6 ans d'études et là, il n'en fait que 4. Alors, il passe son baccalauréat déjà, qu'il n'avait pas. Il entame ses études en 1920, à Rennes. Ça se passe plutôt bien, mais grâce à des facilités, en fait, qu'il a en tant qu'ancien combattant, il va avoir une formation assez réduite. Donc, c'est grâce à son statut d'ancien combattant qu'il a pu devenir médecin ensuite en si peu de temps.
Est-ce que vous diriez, David Laproire, que Destouches est réellement médecin? Ou est-ce qu'il est plutôt un très fin connaisseur de la chose médicale?
Alors, il est médecin. Destouches est médecin et il va être médecin à plusieurs échelles. Il va être médecin de santé publique, il va être médecin généraliste, médecin en dispensaire. Et il va avoir son diplôme de médecin. C'est vrai que c'est une formation qui n'est pas celle de l'étudiant lambda. Il a tout fait assez vite, mais il a réussi ses examens. Alors, pas non plus comme un génie. Hein. Il n'a pas eu d'excellentes notes partout, mais il a quand même de plutôt bon résultat. Pendant ses études, en fait, alors il va faire, comme tous les étudiants, des stages. Il va faire des stages en maternité, notamment chez Tarnier, à Paris, puisque en 1922, le cursus de Rennes ne lui permettait pas d'achever ses études médicales. Il va aller à la faculté de médecine de Paris à partir de 1922. Donc il va finir ses études là-bas, 1923, passer ses derniers examens, qu'il va réussir. Donc on ne peut pas dire que Destouches soit un médecin au rabais. C'est un médecin qui a acquis son diplôme avec les facilités qui lui étaient dues. C'est juste un parcours accéléré, mais un parcours tout à fait sérieux, tout à fait crédible de médecin.
Et parmi ses stages d'études, Louis Destouches se retrouve à Roscoff, en 1921, où il a croisé le chemin d'André Lvoff.
Bonjour.
Futur prix Nobel de médecine, qui témoignait au micro de Jacques Chancel en 1976.
J'ai en effet connu Louis Destouches, qui est devenu plus tard Louis-Ferdinand Céline. Il travaillait à Roscoff. Et quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, au mois d'octobre 1921, j'ai trouvé Destouches installé là, qui travaillait sur la biologie de la mite des abeilles, la Galeria melonella, un lépidoptère, un papillon, qui digère la cire. Il n'est d'ailleurs pas resté longtemps à l'Institut Pasteur. Alors, chose très curieuse, personne ne savait que Céline avait travaillé à l'Institut Pasteur. Ni ses amis, ni ceux qui avaient étudié son œuvre ne savaient.
Lui, il n'y avait jamais des travaux dit importants.
Non, non.
Enfin, qui aurait pu être important.
Oui, enfin, il a travaillé un an et puis il a abandonné. Je pense qu'il avait plus de talent pour la littérature que pour la recherche scientifique.
Mais Louis Destouches est un être opiniâtre.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Restez assis, restez assis. Le corps humain est une machine. Vous tous qui êtes ici, vous allez apprendre à connaître cette machine. Les livres sont importants, évidemment, mais ce seront l'observation et l'expérience directe du corps humain qui réussiront à faire de vous de bons médecins.
Et en 1924, le Carabin soutient sa thèse de médecine, consacrée donc à ce Semmelweis. Alors d'abord, qui était-il ?
Ignace Philippe Semmelweis, c'est un médecin hongrois, obstétricien, il est né en 1818 et il est mort en 1865. D'abord, il fait des études de droit, puis il s'est réorienté vers la médecine après une dissection qu'il a vue. Il a été frappé par une dissection de cadavre et il a choisi la médecine.
Voici le corps d'une femme décédée de la tuberculose. Qui veut être le premier à l'inciser ?
Non, merci, monsieur.
Il fait ses études à Vienne, comme beaucoup de jeunes hongrois qui passent de l'autre côté de la frontière et qui font leurs études à Vienne. Alors Vienne, c'est une école médicale très réputée à l'époque. Il va ensuite poursuivre une carrière en obstétrique et il va être très alarmé par la fièvre puerpérale qui sévit à Vienne, qui touche les parturientes. C'est une fièvre qui est mortelle, hein, qui donne un taux de mortalité des parturientes extrêmement élevé.
Une parturiente, c'est une femme qui accouche. Et la fièvre puerpérale, c'est une maladie transmise par des microbes au moment de l'accouchement. Et à l'époque, une maladie très souvent mortelle. Et ce docteur Semmelweis y a réfléchi.
En fait, sa grande découverte, ça va être celle de l'asepsie.
Prêt ? Le matériel est aseptique, prêt à être utilisé.
Parce qu'il a vu que personne ne se lavait les mains pour faire accoucher les jeunes femmes. Donc il va faire toute une série d'expérimentations et il va montrer que l'étiologie de la fièvre puerpérale se situe dans le toucher des médecins. Et il va préconiser donc cette solution de chlorure de chaux pour que, eh bien, la transmission d'éventuels germes ne se fasse pas par le biais des médecins. Sauf que c'est une profession quand même, la médecine, à l'époque, et à Vienne en particulier, qui est très difficilement bougeable sur le sujet, en fait. C'est une profession qui veut pas changer ses habitudes. Et en fait, il va avoir beaucoup de mal à imposer cette découverte du rôle transmetteur du médecin dans la maladie. Il va avoir énormément de mal à l'imposer, et il va même pas l'imposer du tout, puisque malgré les résultats probants qu'il obtient en faisant cette expérience, la communauté médicale de Vienne le rejette.
Chassé de Vienne, Ignaz Semmelweis décide de partager sa découverte avec d'autres universités européennes. Et là, que se passe-t-il ?
Il va se heurter à l'intelligentsia médicale qui va rejeter en bloc sa découverte. Il va écrire aussi une étiologie de la fièvre puerpérale en 1861 qui va pas avoir du tout de succès. Il va écrire des lettres à des obstétriciens à travers l'Europe. Aucun résultat. Il va se sentir persécuté. Voilà. Et la fin de sa vie va être vraiment rongée par la maladie mentale.
Extrait de la thèse de médecine de Louis Destouches.
Semmelweis s'était évadé du chaud refuge de la raison. Il errait avec les fous, dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho.
Il va être même interné à l'asile d'Oeppling à côté de Vienne par sa femme, qui va le mettre dans un asile. Il va mourir au bout de 12 jours dans des conditions assez mystérieuses. Mais en tout cas, voilà, c'est une trajectoire de médecin maudit, de martyr de l'histoire des sciences, de martyr de l'histoire de la médecine, qui a eu une intuition qui s'est révélée exacte, celle du rôle des médecins dans la transmission de la maladie, et donc du fait qu'il fallait se laver les mains avant d'opérer ou d'entamer un quelconque acte médical ou chirurgical. Donc il a eu cette intuition qui a été rejetée à son époque, et donc il est dans l'histoire médicale un peu une sorte de martyr, vraiment, de l'histoire de la médecine.
Et ce destin tragique, c'est le sujet de fin d'étude de Louis Destouches. Mais à quoi ressemble cette thèse ?
C'est pas une thèse technique de médecine, c'est une thèse qui a un style qui n'est pas encore celui du Céline à venir, mais qui a un style quand même très remarqué et remarquable, remarqué par son jury de thèse et remarquable dans son emphase parfois et dans certains développements qui n'ont rien à voir avec la médecine. La première phrase, c'est quand même « Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur ». Bon, c'est un début vraiment très étrange pour une thèse de médecine, même si la thèse hagiographique fait partie de l'histoire des thèses de médecine. On fait des thèses hagiographiques sur beaucoup de grands médecins, mais Semmelweis, il y avait peu de thèses de médecine qui étaient faites sur lui. Dans l'histoire de la médecine, ça reste un personnage qui n'est pas mis au même niveau que Pasteur, et dont la réception et dont la postérité a été complètement différente de celle de médecins comme Cor ou Pasteur.
Témoignage d'Edith Follet, première épouse de Louis Destouches.
Eh bien, sa thèse, elle est tout de même extrêmement bien. Ah, ça, c'est la première chose qu'il a faite. Ouais.
Voici la terrible histoire de Philippe Ignaz Semmelweis.
Il nous la lisait le soir, je
crois. Ah oui.
Oui.
Et il lisait bien.
Ah oui.
Très bien, oui.
Mon père trouvait que c'était remarquable.
Ah oui.
Il était de ceux trop rares qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau, vivre. Il l'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse, la vérité c'est la mort. Quant à la médecine, dans l'univers ce n'est qu'un sentiment, un regret, une pitié plus agissante que les autres, d'ailleurs presque sans force à cette époque où Semmelweis l'abordait. Il alla vers elle tout naturellement.
Qu'est-ce qu'on peut dire des motivations qui ont poussé le futur docteur Destouches à s'intéresser à ce Semmelweis ?
Ce qui a intéressé Destouches à l'époque, c'est effectivement le destin de ce personnage, martyr, qui a raison contre tout le monde, qui se dresse contre l'intelligentsia médicale, qui est rempplie de préjugés, remplie de faux-semblants. Et donc, il se sert de Semmelweis comme une manière aussi de critiquer une institution médicale à laquelle il n'appartient pas encore. Ce qui est très paradoxal. Alors, en même temps, il voit dans le personnage de Semmelweis le médecin idéal, c'est-à-dire cette espèce de médecin au destin qui s'élève au-dessus de celui des autres êtres humains. C'est un destin particulier. C'est un exemple type de l'idée qu'un homme, ou une femme, mais là un homme en l'occurrence, peut s'élever au-dessus de la masse et au-dessus de la lourdeur des hommes. Et donc c'est vrai qu'il parle de grand médecin hein, dans la préface de sa thèse. Et en même temps, c'est aussi une occasion pour lui de voir la médecine comme un geste très à part dans l'humanité, c'est le geste de soigner, d'enlever la souffrance, d'ôter la souffrance au maximum. Et un médecin qui se proposait d'ôter la souffrance de millions de femmes, de milliers de femmes en tout cas, eh bien on lui a claqué la porte à la figure quelque part. Et ça, il a retenu ça. Il a retenu ce destin du persécuté. Quand on demande à Céline, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Quelle a été votre ambition artistique? C'est raconter les innombrables vies de Pays Semmelweis. Donc en gros, le destin a posteriori de l'écrivain Céline se forge sur le parcours de cet obstétricien hongrois du 19e siècle. Ce syndrome du martyr, du persécuté, de celui qui est seul contre tous, de celui qui est plus sensible, plus élevé que les autres, mais qui n'arrive pas à se faire entendre. Et c'est vrai que pour Destouches, l'étudiant en médecine, déjà, c'est un premier pas dans l'écriture, mais c'est surtout une manière très particulière d'envisager la médecine. Et déjà une première critique envers ses confrères, parce que à une époque où on fait tant de mal à la profession, j'ai voulu raconter le destin d'un grand médecin, voilà. Mais il tient aussi certains médecins pour responsables de l'état de la médecine actuelle, et ça, tout au long de sa vie, il va critiquer l'institution médicale. Mais ça, c'est son premier pas. Semmelweis, c'est un premier pas de la critique de l'institution médicale, tout en mettant en avant le caractère presque sain que peut avoir le médecin aussi pour lui.
Pour résumer, aux yeux de Louis Destouches, les bienfaiteurs comme Semmelweis sont forcément des victimes face à la société, car ils sont incompris. Et il y a fort à parier qu'en 1924, le jeune médecin Destouches s'identifie au vieux docteur Semmelweis, avec le sentiment vaniteux chez le futur Céline d'avoir raison contre tout le monde.
Vous avez aimé les hommes à une période de votre vie. Vous les avez méprisés plus tard. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Louis-Ferdinand Céline, au micro d'André Parineau, 1958.
J'en ai peur, plus exactement, parce que je les trouve capables de tout. On m'en fait tous les jours des démonstrations. Si les chiens aboient, il y en a 10 000 ou 100 000, c'est les miens. Si les ordures n'arrivent pas à la route, c'est de ma faute. Et si les rats envahissent les boîtes d'ordures, c'est de ma faute aussi. Enfin, je connais la persécution très bien.
Revenons en mars 1955, sur les antennes de la radio suisse.
Et vous avez commencé votre métier médecin en quelle année ?
Où Robert Sadoul poursuit son interview de Louis-Ferdinand Céline.
En 24.
Je suis entré à la Société des Nations, aussitôt après ma thèse. Je suis entré à la Société des Nations, à la section d'épidémiologie et d'hygiène à Genève, en 1924, exactement, oui. J'y restais 4 ans.
Destouches soutient sa thèse en 1924 et il cherche une orientation qui soit assez éloignée du médecin généraliste, qui soit éloignée de la routine. Il est encore avide d'aventure. Hein. Destouches, c'est quelqu'un à l'époque qui a connu pas mal de vies déjà. Il y a une trentaine d'années. Il a été apprenti bijoutier, surveillant de plantation en colonie. Il a baigné dans le milieu proxénète à Londres brièvement. Il a été soldat, conférencier pour la mission Rockefeller. Et là, il se cherche une orientation. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit l'orientation de tout le monde. Donc, grâce à un de ses contacts à la Fondation Rockefeller, qui s'appelait Sexyar Goon, ce médecin va lui présenter Ludwig Rachmann, qui est le fondateur, en fait, de l'organisation d'hygiène de la Société des Nations. C'est-à-dire la partie santé publique de la Société des Nations. Et en fait, ce comité d'hygiène de la Société des Nations à laquelle va appartenir Louis Destouches, c'est un petit peu l'ancêtre de l'Organisation Mondiale de la Santé telle qu'on la connaît maintenant. Donc c'est une grosse institution qui est basée à Genève et qui donc se mêle un peu d'envoyer des gens faire des enquêtes de santé publique un peu partout dans le monde.
Donc, en 1924, le tout jeune docteur Destouches intègre la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et il partage son temps entre Genève et ses différents voyages à travers le monde. L'année suivante, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il débarque aux États-Unis. Frappé par l'urbanisme américain, il en fera l'un des passages cultes du voyage au bout de la nuit.
Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville. Absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas. Non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout. Raide, à faire peur.
Ben, il rencontre pour la première fois ce continent, hein, les États-Unis qu'il ne connaissait pas. New York, c'est une ville debout, comme il le dira un petit peu plus tard. Alors, en l'occurrence, il travaille pour le bureau d'hygiène de la STN.
Régis Tétamanzi, professeur de littérature.
Et donc, oui, il profite très largement de cette possibilité d'accompagner des groupes de médecins étrangers dans divers pays du monde, à Cuba, en Europe, du Nord, du Sud, pour visiter des établissements de santé, des entreprises, des hôpitaux, des dispensaires. Et c'est quelque chose de très important pour lui. Il s'est très investi. On a toute une correspondance professionnelle qui montre que véritablement, ça lui tenait à cœur. C'est aussi sa formation d'hygiéniste qui est là au premier plan, me semble-t-il. Et donc, le voyage de 1925, à mon avis, c'est vraiment la découverte des États-Unis. Il y a une fascination de l'Europe pour cette société nouvelle, avec les gratte-ciels, avec les girls américaines, avec le mode de vie américain. Voilà, le mot hot dog, par exemple, rentre dans la langue française à cette époque, et bien d'autres.
Destouches va donc faire un premier voyage aux États-Unis. Il va en retirer notamment un passage fameux de Voyage au bout de la nuit. Son passage, c'est Ford, qui est un passage vraiment très très célèbre. Et c'est de là qu'il le tient. C'est de cette expérience de médecin hygiéniste pour la SDN qu'il le tient. Donc c'est un voyage qui a beaucoup marqué Destouches parce que il voit à quel point les conditions sanitaires dans tous les pays restent à améliorer. Même si dans certaines villes, il va plutôt trouver ça bien, il va quand même voir qu'il y a beaucoup de manques en matière d'hygiène publique. Donc ces voyages-là sont très importants pour son devenir de médecin par la suite.
Où allons-nous maintenant ?
Nous allons voir dans les ateliers de tôlerie comment se forme une carrosserie.
Archives Pathé-Gaumont, 1930.
Cette caisse que vous voyez placée sur la chaîne contient toutes les garnitures, tous les accessoires nécessaires à la finition de la carrosserie.
J'ai l'impression, quand il a été en Amérique, il a vu les usines Ford.
Témoignage d'Edith Follet, première épouse de Louis Destouches.
Il a vu comment il travaillait à la chaîne, tout ça, et il avait fait un rapport qui n'a pas plu du tout aux Américains avec qui il était.
Les ouvriers à tour de rôle prennent dans la caisse l'objet qu'ils ont mission de mettre en place et le fixent ensuite à l'endroit prévu.
Basé à Genève, auprès de la SDN, Louis Destouches, entre deux voyages, reçoit régulièrement la visite d'Edith Follet, son épouse.
Bonsoir.
Bonsoir, chérie.
Avec leur fille Colette, ils vivent tous les trois à l'hôtel. Mais cette petite famille devient vite encombrante pour le docteur Destouches, car en Suisse, il a fait la rencontre d'une jeune femme. Elle s'appelle Elisabeth Craig.
Elisabeth Craig, c'est une danseuse américaine qui est originaire de Californie, qui est passée par Paris. Elle a connu la vie parisienne dans les années 1920. Elle rencontre Destouches à Genève, dans une librairie, alors qu'elle vient soigner une tuberculose, un début de tuberculose. Elle rencontre Destouches à Genève.
Vous voulez dire que vous êtes danseuse ?
Oui.
Une véritable danseuse ?
Quelquefois, je me le demande.
Et vous pouvez faire des pirouettes et toutes ces choses-là ?
Bien sûr, je sais faire un entrechassis.
Je vous demande pardon.
Je croise les pieds en l'air 6 fois de suite. Nijinsky peut le faire 10 fois, mais c'est une exception qui n'arrive que tous les 100 ans.
Lui en tombe amoureux, ils tombent amoureux l'un de l'autre. C'est une période compliquée pour Destouches, puisqu'il est toujours marié à Edith Follet au début 1926, mais les deux époux ne se fréquentent plus trop. Destouches a soif d'indépendance. C'est vrai que la vie avec Edith Follet n'a jamais été extrêmement folichonne pour lui. Il s'est très vite ennuyé. Il a quand même eu une fille avec elle, mais en tout cas, cette rencontre avec Elisabeth Craig est assez décisive pour lui du point de vue amoureux.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Edith Follet, 1924.
Je te dois tout et ne te rends rien. Je n'ai qu'à me taire et me considérer comme un beau saligaud que je suis. Charmant et charmeur en surface, en fait, je n'ai aucune qualité de bonheur et je suis une espèce de monstre stérile et vagabond. Artiste, je le suis sans doute, mais pas intelligent, car je ne sais pas la mesure de la vie et lui demande trop et ne lui rend à peu près rien. Je pleure, crois-le, bien plus souvent qu'à mon tour, et des larmes qui ne doivent rien à personne. Un misérable, je le suis, certes, mais que cela, tout cela.
En 1926, Louis Destouches et Edith Follet divorcent. Le jeune médecin de la Société des Nations est fasciné par Elizabeth Craig.
J'imagine qu'une danseuse doit avoir des muscles de champion.
Oh, mais non, voyons, ce serait effrayant. Nous tâchons de combiner la sveltesse et la force.
C'est une danseuse. Destouches adore les danseuses.
Enfin, je danse depuis l'âge de 12 ans et je ne crois pas que mes muscles soient trop développés.
Oh non, non, pas dans votre cas.
Voilà, c'est un vrai coup de foudre. Elle va emménager avec lui lorsque Destouches va quitter Genève pour Paris. Elle va emménager avec lui à Clichy, où Destouches va s'établir. Voilà, c'est l'un des grands amours de sa vie.
Oh, ce sont quelques-unes des plus belles années de ma vie. J'ai mûri très vite à ses côtés.
Témoignage d'Elizabeth Craig, 1988.
J'étais une petite idiote quand je suis arrivée à Paris, mais une idiote heureuse au moins. Les rapports que nous avions, d'amour, de sexe, et de toutes les belles choses qui vont avec la vie quand on est heureux.
Alors, quel rôle joue cette jeune Américaine dans la vie de Louis Destouches à ce moment-là?
Je ne sais pas si elle joue un rôle décisif dans la structure intellectuelle et affective de Céline.
Frédéric Vitou, académicien et biographe de Louis-Ferdinand Céline.
Je pense qu'elle représente pour lui un idéal. L'homme est lourd, dit Céline. L'homme est médiocre, l'homme est englué dans ses appétits d'une bassesse totale, dans sa méchanceté, dans sa rancœur. Mais ce qui échappe à cette malédiction de l'homme tel que Céline le voit, c'est la légèreté, c'est la grâce, c'est la sensualité, c'est ce qui échappe en quelque sorte à la pesanteur. Or, Elizabeth Craig, c'est tout ça. C'est une danseuse, donc elle est légère, elle est aérienne, elle est mutine, elle est pas bégueule. Elle est sensuelle, elle reprend aussi le goût du spectacle. Céline a toujours eu une passion pour le spectacle. Au fond, toute sa vie, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais toute sa vie, le plus grand chagrin de la vie de Céline, c'est de ne jamais avoir réussi à faire jouer des arguments de ballet qu'il avait écrits, qui ne sont pas ce qu'il y a de plus intéressant dans l'œuvre de Céline, mais ça correspondait justement à cette aspiration à la légèreté en contrepoint de la lourdeur du monde. Et Elisabeth, qui va l'affoler sexuellement aussi, mais lui aussi, parce que lui n'est pas non plus quelqu'un de prude, hein. Il va l'entraîner aussi dans des expériences sexuelles multiples, etc., surtout quand il va revenir à Paris avec elle, quand il va quitter la Société des Nations, mais représente tout ça.
À Genève, dans les coursives de la Société des Nations, le docteur Destouches gamberge. Chaque voyage d'observation à l'étranger entraîne la rédaction de rapports et de notes et ça l'ennuie sévèrement. Louis Destouches choisit alors de quitter la SDN et de rentrer à Paris. Et c'est là qu'il se met à écrire une pièce de théâtre intitulée « L'Église », conçue comme un retour d'expérience. Écoutez bien cet extrait.
Oui, Ferdinand Céline dans l'Église, écrit en 1926, publié en 1933. À la Société des Nations, les gens de la caisse rigolent. Des papiers passent, chargés sur des petites voitures. Un petit homme habillé en juif polonais, long cache poussière noire, petite casquette, lunettes épaisses, nez extrêmement crochu, parapluie, guêtre. Il se glisse, prudent, très prudent, furtif et un peu caché. C'est le directeur du service des compromis, Judenzweck.
Cette pièce, où surgit déjà un antisémitisme sous la plume de Céline, reste d'abord dans ses tiroirs. Et elle ne sera publiée qu'en 1933. Mais retenez bien son titre, L'Église, car on y reviendra. Pour l'instant, en 1926, le docteur Destouches est de retour à Paris. Quelle est son activité ?
Il s'établit en clientèle à Clichy, rue d'Alsace, où il emménage donc avec Elisabeth Creil.
Faites entrer le suivant.
Il a une clientèle privée, mais ça se passe pas très bien. Il a très peu de clients. Et il va se former un peu à la médecine de dispensaire. Alors la médecine de dispensaire, c'est une médecine qui s'effectue en dehors du cabinet privé, où l'on soigne, en général gratuitement, des populations qui ont des maladies, mais qui ne peuvent pas payer un médecin généraliste, des maladies souvent liées à leur environnement, des maladies de travail notamment. Donc les dispensaires sont essentiellement là pour soigner des populations qui n'ont pas les moyens de se faire soigner ailleurs. Donc Destouches va être confronté notamment à des ouvriers, au prolétariat. Et donc la médecine de dispensaire est faite pour soigner un maximum de gens, d'origine sociale en général assez modeste, et leur permettre un accès aux soins qu'ils n'auraient pas par ailleurs. Donc la médecine de dispensaire est vraiment une médecine particulière et particulièrement adaptée à une population au travail, et une population urbaine en général, même s'il y a des dispensaires aussi plus loin, mais c'est une médecine qui est particulièrement utile aux prolétariats.
Vous attendez le docteur ?
Oui, il est à côté. Mon garçon passe à la radio.
Lucette Destouches. Entretien pour Pariscope, 26 janvier 1966. Louis, c'était Saint-François d'Assise, Saint-Vincent de Paul, voilà. Il disait, des gens souffrent, il ne faut pas qu'ils souffrent. Il allait vers ceux qui étaient malheureux. Aussi, dans ce combat, était-il tout seul ? Il a hurlé tant qu'il a pu pour défendre les misérables. C'est vraiment ça, la vérité.
Voilà, ça s'arrangera. Mais vous me le ramènerez dans 8 jours.
Encore ? Mais c'est que...
Bon, ça ira, on verra ça plus tard, c'est pas pressé. Ramenez-le-moi, hein ?
Merci, docteur, vous êtes bien bon.
Allez.
Au revoir, docteur.
Au revoir.
On entend souvent que Céline était l'écrivain, mais médecin des pauvres. Est-ce que c'est de là, de cette médecine de dispensaire, qu'est née cette image du médecin des pauvres ?
Oui, c'est à ce moment-là que naît l'image du médecin des pauvres, de Céline, le médecin des pauvres, c'est lorsqu'il est au dispensaire de Clichy. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il se présente lorsqu'il fait paraître Voyage au bout de la nuit, notamment. Il se présente en médecin. Plus qu'en écrivain. Il dit que la chose littéraire l'ennuie et que son véritable métier, c'est médecin. Et donc, la légende du médecin des pauvres, même si c'est pas seulement une légende, il a soigné des indigents, il a soigné des pauvres, il a soigné des gens qui n'avaient rien, il les a soignés parfois gratuitement, même si lui était employé par le dispensaire. Donc le dispensaire le payait lui, mais les pauvres et les prolétaires, les ouvriers auxquels il avait affaire, étaient soignés effectivement gratuitement. Parfois même dans sa clientèle privée, il a aussi soigné des gens gratuitement quand il n'avait vraiment pas les moyens de payer. C'est arrivé. C'était pas systématique, mais c'est arrivé. Donc, le médecin des pauvres, cette légende vient du fait que les journalistes venaient au dispensaire rencontrer Céline, l'écrivain Céline, dans son dispensaire de Clichy. Et je crois qu'il y a un journaliste qui dit, voilà, c'était un médecin des pauvres qui travaille dans un grand dispensaire de banlieue. Et effectivement, c'est cette image aussi que Céline a voulu orienter. C'est pas un écrivain lambda qui écrit un roman sur ce qu'il ne connaît pas. Sa posture de médecin l'autorise à parler du réel, l'autorise à parler des gens qu'il a vus, des ouvriers, de cette misère. Et donc, c'est son statut de médecin qui lui permet aussi de se légitimer en tant qu'écrivain. Et cette figure du médecin des pauvres, c'est vraiment quelque chose qui naît aussi par la volonté de Céline, qui reçoit les journalistes en blouse blanche dans son dispensaire, limite entre deux consultations, il soigne et puis il va répondre à une question de journaliste et le journaliste va voir le médecin Destouches en action plutôt qu'un écrivain à sa table de travail qui serait inspiré par le don d'écriture. Non, quand le journaliste arrive pour faire l'interview de l'écrivain Céline, il voit aussi le médecin Destouches qui écrit des ordonnances et qui soigne des patients.
Au revoir, monsieur le docteur,
et à
mesdames.
Au revoir, monsieur l'homme. Au
revoir, mon gars. Donc, le médecin Destouches a été recruté par le dispensaire de Clichy. Il vit sa passion avec Elisabeth Craig et il passe aussi un peu de temps avec Colette, sa fille, née en 1920. Quel rapport ont-ils ?
Alors, il l'aime bien, Oui, il lui écrit, il fait des contes pour enfants, il dessine. Je pense qu'il a dû la rencontrer à quelques occasions, mais assez peu. C'est pas ce qu'on appelle un bon père intéressant. Mais c'est pas non plus le père indigne qui n'a jamais donné un signe de vie. Non, non, pas du tout.
Sachez qu'en 1997, Colette Destouches, fille de Céline, était invitée sur France Inter au micro de Jean-Luc Hesse pour évoquer les souvenirs de son père quand elle était enfant.
Quel genre de père ça a été, ça? Est-ce que c'était un monsieur tendre? Est-ce que c'était un monsieur...
Très tendre, très affectueux, très gentil, mais un peu soupolé, et faisant de temps en temps des petites colères que l'enfant absorbait quand même. Mmh. Mais ça n'avait pas un caractère grave. Non, il était doux et facile.
Doux et facile, mais pas que.
À 5 ou 6 ans, j'en avais peur à cet âge-là. Parce que trop percutant, trop... Il parlait fort et il avait des principes déjà étonnants qu'il émettait. Parce qu'il m'a toujours considéré comme une adulte, il me parlait absolument pas du tout de langage bébé. C'était toujours percutant et quand je comprenais pas, je disais je comprends pas. Et bien là, attends, on va recommencer, mais écoute ce que je te dis. Mais... Il y avait toujours cette chose. Il était difficile à comprendre, pour un enfant surtout.
Poursuivons notre récit. Nous sommes maintenant à la toute fin des années 1920.
Faites entrer le suivant.
Et voici comment Eliane Bonnabel, la fille d'une patiente de Louis Destouches, voyait avec ses yeux de petite fille le toubib de Clichy.
Le docteur Destouches, tel qu'il pouvait être en exercice à Clichy quand j'étais une enfant, était un très bel homme qui avait énormément d'allure, et ça, je ne suis pas la seule à penser ça. Et son arrivée dans le dispensaire où il exerçait provoquait une espèce de remous, mais parce qu'il avait vraiment une présence extraordinaire, vraiment. Et il se décrit comme un homme laid, c'est absolument faux. Il avait une présence, comme on dit d'un acteur, qu'il a une présence. Sans affectation aucune d'ailleurs, ni d'élégance vestimentaire, ni d'élégance de parole, ni même le désir de faire du charme. Je crois qu'il se trouvait là, très franchement. Il l'a dit souvent, et quand il était vieux, bien entendu, la question ne se posait plus, vieux et malade, mais quand il était jeune, c'était tout le contraire. C'était un homme vraiment assez fascinant à tout point de vue.
Alors, une prestance, sans aucun doute, mais aussi un homme animé d'une grande ambition sociale.
Alors, il arrive au dispensaire de Clichy en 1929, c'est le dispensaire de la rue Fanny, à Clichy. Il envisage de devenir médecin-chef, alors il faut dire que cette structure de Clichy, c'est une structure très moderne, c'est une toute nouvelle équipe, et effectivement, son expérience en clientèle n'est pas très bonne, mais il a quand même l'expérience de la Société des Nations, et donc il essaye très vite de s'imposer en tant que médecin-chef. Il postule au poste de médecin-chef. Le problème, c'est qu'il va s'estimer être doublé par un autre médecin qui s'appelle Grégoire Ischok, qui est lituanien, juif, et qui va, lui, devenir médecin-chef. Ce qu'il estime être à sa place. Bon, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, toujours est-il que lui ne devient pas médecin-chef. Et il en conçoit de la rancœur. Et ça va être un ennemi tout au long de son passage à Clichy. Ils vont beaucoup se confronter, les deux, et c'est vrai que, en plus, Ischok, non seulement juif, mais communiste, pour Destouches, ça fait deux aspects qui étaient assez rédhibitoires. Oui, sans jamais se remettre en cause lui-même. C'est-à-dire que ce médecin est peut-être un excellent médecin, mais ce qui pose problème évidemment à Céline, Louis Destouches, c'est que avant tout, il est juif. C'est bien le problème de ce dossier-là, entre guillemets, du dispensaire de Clichy.
C'est ce qu'il dit a posteriori. En 1929, il ne le dit pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. A posteriori, dans les pamphlets, il va même écorcher son nom, comme il le fait très souvent dans les pamphlets. Il va l'appeler Idouk, et il va dire médecin juif lituanien, qui en gros m'a pris ma place. Hein. Mais effectivement, il ne sera jamais en cause. Hein. Ce n'est pas parce qu'Ischok a un peu plus d'expérience que lui, un peu plus d'aura. Non, non, c'est voilà, effectivement, a posteriori, il va dire que c'est parce qu'Ischok était juif.
Louis Destouches semblait convaincu qu'il aurait dû être chef à la place du chef, surtout si son chef était juif. Souvenez-vous, d'abord, la lecture d'Urbain Goyer au Cameroun en 1916, auteur antisémite. puis la pièce de théâtre, L'Église.
Il se glisse, prudent, très prudent.
Écrite en 1926.
Furtif et un peu caché. C'est le directeur du service des compromis, Judenzweck.
Et maintenant, l'affaire du dispensaire de Clichy. L'antisémitisme de Louis Destouches se nourrit au fil du temps. Et en miroir du docteur Semmelweis, un miroir déformant bien sûr, Louis-Ferdinand Céline est en train de se percevoir en victime d'une société qui refuserait de reconnaître ses compétences. Mais pour l'instant, il n'en fait aucune publicité. Sa vie se poursuit avec une certaine aisance.
Destouches et Elisabeth Craig déménagent lorsque Destouches prend son poste à Clichy. Et il déménage de la rue d'Alsace à la rue Le Pic, en plein Montmartre. Donc ils emménagent ensemble là-bas. Alors Destouches est un médecin de banlieue, effectivement. Il a son salaire au dispensaire de Clichy. Il a une vie relativement confortable, on va dire. Sans être grand bourgeois, il gagne relativement bien sa vie, pas des cents et des mille, mais il gagne sa vie, il permet de louer un appartement. Et puis, il écrit un roman. À partir de 1928-29, c'est un roman qui va faire grand bruit, qui s'appelle « Voyage au bout de la nuit », où il s'est mis dans l'idée de raconter ses diverses expériences. Comme je l'ai dit, il a eu beaucoup de vie avant, et je pense que ça fait une matière suffisamment importante pour raconter un petit peu son périple. Alors, voilà, il y a une vie effectivement de médecin, de dispensaire, et il y a une vie aussi d'écrivain, puisqu'il se met à l'écriture d'un roman. Ça lui prend du temps, c'est évident.
Il était tellement, à ce moment-là, obsédé par son écriture que rien n'existait plus. Et moi, quand j'y allais, il ne me parlait même plus. Il était d'un mutisme complet.
Colette Destouches, France Inter, 1997.
Vous dites qu'il prenait des notes sur les murs.
Oui. Et je me couchais, j'étais dans sa chambre, c'était le studio. Et la nuit, il écrivait toute la nuit, on doit dire, jusqu'à vers 3-4 heures du matin. Il ne dormait pas, il dormait très peu d'ailleurs, de nature. Et les choses qui lui passaient par la tête, il les inscrivait sur le mur. C'était des espèces de momies égyptiennes un peu enroulées. Et c'était généralement dans la queue de la momie qu'il écrivait ses petites pensées. Alors il les repêchait. C'était très facile, beaucoup plus facile que le papier.
Entre 1930 et 1932, Louis Destouches mène plusieurs vies de front, avec une grande intensité.
Ça va être des années assez folles quand on y réfléchit. Il va travailler dans un laboratoire pharmaceutique, il va même créer deux médicaments qui vont être même commercialisés. Il n'arrête pas. Et puis il va écrire, et puis il va fréquenter aussi le milieu, ce fameux milieu qui l'intéresse, non pas parce qu'il a la tentation de s'y mêler, de devenir macro ou je sais pas quoi, non pas du tout, mais parce que ça l'amuse, ça l'intéresse quoi. Donc il y a un côté, alors il est fois médecin, il est chercheur, il travaille dans un laboratoire, et puis ces années-là, c'est les années de création du voyage les plus mystérieuses quoi. Et c'est les années décisives, quoi. C'est ces années où, nourri de tout ce qu'il a connu, va aboutir à ce grand roman qu'on peut qualifier d'une certaine manière, de manière traditionnelle, de roman d'éducation. C'est un roman d'éducation. En tout cas, la première partie, c'est un roman d'éducation. Et je pense que ces années-là sont les années les plus fécondes pour Céline. Les années où, à la fois sur le plan affectif, il connaît le plus grand épanouissement avec Elisabeth. Les années d'intense création. Est-ce qu'il se voit déjà comme un écrivain? J'en sais rien. Alors, il dira toujours en boutade, ouais, j'avais vu mon ami Eugène Dabi qui avait gagné beaucoup d'argent avec Hôtel du Nord, ce grand roman qui fera un film célèbre de Carnet, dialogué par Henri Janson surtout.
J'ai besoin de changer l'atmosphère, et mon atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère. Tu suis l'atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être, qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Et puis, il y va, quoi. Il y va, il écrit. Donc, à la fois, cet homme qui voyage sans arrêt, à un moment donné, en écrivant, c'est-à-dire, il fait un pas de côté, il regarde en arrière, il regarde d'où il vient et il raconte tout ça.
Le soir, donc, le médecin Destouches écrit « Voyage au bout de la nuit » dans une fièvre créatrice. Mais Elisabeth Craig, elle, commence à se poser des questions.
Bravo! Après l'amour, vous devenez éloquent.
Sur les humeurs de son amant.
J'avais une fascination terrible pour lui, vraiment terrible. Je m'admirais. Et en même temps, je regrette qu'il ait eu ce côté tragique qui empirait d'année en année. Il était comme un immense ours qui avait toujours besoin d'aide, besoin d'être cajolé. Il ne savait que faire de lui-même.
Alors, est-ce qu'il avait fantasmé Elizabeth Craig ? Oui, sans doute. Et la suite va le prouver. Parce qu'au fond, Elizabeth Craig est une jeune femme d'un bon milieu, je veux dire, américain. Au fond, son rêve à terme, c'est d'avoir un bon mari, gentil mari, d'enlever des enfants. Elle a fait des partouzes avec Céline, qui l'a entraînée dans des milieux un peu interlopes. Mais bon, c'était amusant, c'était le temps d'une vie. Au fond, elle n'aspire pas à ça. Bon. Mais elle a aimé Céline. C'est très beau ce qu'elle raconte quand on a retrouvé la trace d'Elizabeth Craig bien tardivement, bien après sa mort, où elle avait complètement disparu. Et quand elle raconte, mais je voyais Céline quand on est... Elle était là, c'était la femme qui était présente avec lui, qui vivait avec lui.
Youhou, j'ai trouvé les tasses !
En août 1931, le couple passe ses vacances d'été à Pau, dans le Béarn, où Louis Destouches achève l'écriture de son premier roman. Puis il rentre à Paris, en septembre, où ils forment un duo d'artistes montmartrois. Disons deux artistes qui cherchent encore leur chemin.
Nous avions chacun notre art. Il avait le sien, j'avais le mien. Et le soir, nous nous retrouvions et nous faisions ce que nous sentions. Il explosait dans mes bras, il me tenait vraiment très très fort. Et des soirs, il disait, j'ai vraiment une pêche d'enfer. D'autres soirs, où il était complètement déprimé.
Elle a vécu avec lui pratiquement, oui, de 1925 à peu près, jusqu'au voyage au bout de la nuit. Et elle disait que je voyais Céline écrire. Et elle raconte, quand je le voyais sortir, il était comme dans une brume de cauchemar dont il cherchait à s'éveiller. Et il disait, tu ne peux pas comprendre, mais la vie est tragique, mais tu ne peux pas comprendre. Il sortait de son cauchemar pour retrouver la vie légère, la vie de l'apesanteur, la vie de la sensualité qu'était Elizabeth. Et c'est à elle quand même qu'est dédié l'un des plus grands romans du XXe siècle, qui est Voyage au bout de la nuit quand même. Mais elle ne s'en est jamais rendue compte. Quand le livre est sorti, elle était en Amérique, elle est revenue après, elle a vu indirectement les échos du retentissement qu'avait eu ce livre dans la société française, mais elle n'était pas littéraire. Céline l'a emmené une fois, un ou deux, à voir tel ou tel membre de l'Académie Goncourt, mais elle s'en est pas rendue compte et c'était pas son monde. Elle est repartie, elle n'est pas revenue.
Elle s'est enfuie peut-être?
Plutôt elle est repartie un jour en Amérique, mais elle n'est pas revenue. Alors chaque année, elle repartait en Amérique un mois, deux mois, pour voir sa famille, puis elle revenait jusqu'au jour où elle n'est plus revenue. C'était le drame pour Céline. C'était son grand amour.
Pour lui, j'étais une sorte de créature divine qui lui appartenait. Il pouvait contrôler quand il était déprimé, quand il pensait que tout paraissait pourri autour de lui, vraiment pourri. J'étais belle, j'étais là, et il se disait, je la possède et elle pense que je suis un être merveilleux. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand je deviendrai vieille et que ma beauté va s'envoler? La beauté, ça ne peut pas durer éternellement. Alors peut-être est-ce maintenant le moment de le quitter.
Je vais vous citer une phrase très célèbre du Voyage au bout de la nuit qui m'a longtemps amusé quand il dit « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». Bon, je pensais que c'était un bon mot, quoi. Mais non. C'est beaucoup plus complexe que ça, cette phrase. C'est l'infini mis à la portée des caniches. Ce n'est pas les tontons flingueurs, c'est les pensées de Pascal. C'est-à-dire, l'homme est dans son cloaque, même dans l'amour et la fornication, et un côté caniche, tout ce qu'on veut. Et cette notion pascalienne de l'homme qui n'est rien, mais qui parfois a un frisson d'infini qui le hausse au-dessus de ce qu'il est. Et l'amour, c'est peut-être ça, parfois. C'est cet infini. Donc, c'est pas, l'homme n'est pas seulement un caniche, il a cet infini-là. Donc, à la fois, l'homme le plus médiocre au fond de sa fange, de son cloaque, comme dirait peut-être Pascal, il a cette part, quelque chose de plus grand que lui, quoi. Je pense que Céline est l'exemple même de l'écrivain qui renferme en lui toutes les contradictions. C'est pour ça qu'il est vivant, hein. L'horreur, le racisme, tout ce que vous voulez, et la compassion, l'athéisme, se moquer de l'esprit, mais aussi parfois ce petit frisson d'infini qu'il suggère au détour d'une phrase. Comprendre Céline, c'est comprendre toutes les contradictions de Céline.
Mais quand on vous entend, Frédéric Vitou, nous sommes tous des âmes complexes et contradictoires. C'est-à-dire que nous avons tous en nous des conflits intérieurs, de pulsions, de désirs, de compassion, de colère. Et puis après, on est soit du côté des forces de la vie, soit des passions tristes. C'est assez intéressant parce que lui, il a fait le choix de la passion triste quand même.
Oui, il a fait le choix de... Oui, par ailleurs, Céline est un désespéré. C'était évident, on peut pas dire le contraire.
Propos d'Elizabeth Craig dans Elizabeth et Louis, 1994. Vous savez, il y avait quelque chose de tragique en lui. Je ne sais pas d'où cela venait, mais il aimait souffrir. Je crois qu'il voulait prouver que le peuple avait besoin de lui. C'était un défi. Il détestait les petits gribouilleurs de l'époque. Certains des écrivains qui le traitaient avec mépris. Il voulait capter la vulgarité dans son écriture comme un cadeau qu'il aurait fait au peuple. Il voulait exprimer les sentiments du peuple.
Le monde est matérialiste et il se demande pourquoi, parce qu'il a fait ça, si qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh ben, ils n'en valent certainement pas la peine.
En 1957, longtemps après donc, au micro d'Albert Sbinden, Louis-Ferdinand Céline était rongé par le fiel à l'égard de ses semblables. Persuadé encore une fois que personne n'avait saisi la dimension sacrificielle qui fut la sienne. Incompris de tous, à la manière, dans son esprit, du docteur Semmelweis. En mars 1955, Robert Sadoul lui pose une dernière question. Au fond, voulait-il être médecin ou écrivain ?
Est-ce que vous pensiez faire ce double métier ou aviez-vous déjà choisi
une voie ? Pas du tout. Pas le moindrement. J'avais uniquement une vocation médicale. Je regrette de l'avoir un peu négligée. Je me serais livré entièrement à la médecine. Je n'aurais pas eu tant d'ennuis. Et alors, je me suis livré à la littérature et il m'en a coûté très cher.
En conclusion de ce quatrième épisode, retenez que Louis-Ferdinand Céline est entré en médecine un peu par hasard. Mais ses activités médicales vont le conforter dans son idée que la vie est un sinistre hôpital, bien plus qu'un joyeux festival. Selon lui, l'homme n'est que souffrance. Ainsi, après quelques années bohèmes passées auprès d'Elizabeth Craig, le bon docteur Destouches s'apprête à faire don de sa personne à ses contemporains. Une offrande qui passe par la littérature.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline aux éditions de la NRF, peu avant le 14 avril 1932. Monsieur, je vous remets mon manuscrit du Voyage au bout de la nuit, 50 boulots. Je vous serai particulièrement obligé de me faire savoir le plus tôt possible si vous êtes désireux de l'éditer et dans quelles conditions. Je ne voudrais pour rien au monde que ce sujet me soit soufflé. C'est du pain pour un siècle entier de littérature. C'est le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine. Avec mes meilleurs sentiments, Louis Destouches.
Comment Voyage au bout de la nuit va bouleverser l'histoire de la littérature, mais aussi le destin de Louis-Ferdinand Céline, c'est l'horizon du prochain épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Cédric Diallo.
Prochain épisode, le virtuose de la colère. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.